An 8 de l'ère de la diffusion. Point de Lagrange. Cheng Xin retourna une nouvelle fois à ce point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil où elle avait rencontré Yun Tianming un an plus tôt. Le voyage fut cette fois bien plus tranquille. Elle s'était portée volontaire pour un essai de simulation du projet Bunker. Cette simulation était conduite de manière commune par les flottes internationales et les Nations Unies. L'objectif était d'éprouver l'efficacité en matière de protection des géantes gazeuses en cas d'attaque de la forêt sombre. On utiliserait une superbombe à hydrogène pour simuler l'explosion du Soleil. La puissance explosive des armes nucléaires ne s'exprimait plus en équivalent TNT, mais celle de cette bombe correspondait à une masse d'environ 300 mégatonnes. Pour coller au plus près de la réalité des conditions environnementales qui seraient celles en cas d'explosion solaire, la bombe avait été enveloppée dans une épaisse coque externe. Celle-ci était destinée à reproduire un jaillissement de matière semblable à celui qui aurait lieu le cas échéant. Le rôle des 8 planètes était tenu par des fragments de roches issus de la ceinture d'astéroïdes, dont 4, représentant les planètes telluriques, avaient un diamètre d'une dizaine de mètres, tandis que les 4 autres, figurant les géantes gazeuses, avaient un diamètre d'environ 100 mètres. Les 8 fragments d'astéroïdes étaient disposés autour de la bombe en respectant les distances orbitales relatives entre chaque planète, de sorte que l'ensemble compose un système solaire miniature. Mercure, le fragment le plus proche, était donc à 4 km du Soleil et Neptune, le plus éloigné, à 300 km. Si l'essai prenait place au niveau de ce point de Lagrange, c'était pour minimiser l'influence exercée par les gravités du Soleil et des planètes et garantir ainsi, du moins pour un temps, la stabilité de ce système. D'un point de vue strictement scientifique, cette simulation n'était pas nécessaire. Grâce au grand nombre de données déjà recueillies, les simulations virtuelles permettaient d'obtenir des résultats extrêmement fiables. Et même s'il avait été nécessaire de mener des expériences concrètes, elles auraient tout à fait pu avoir lieu en laboratoire. En réalité, la taille des planètes importait peu. Du moment que l'expérience était menée avec la plus grande rigueur, elle bénéficierait de toute façon d'une parfaite crédibilité. Cet essai à grande échelle au milieu de l'espace semblait donc maladroit, pour ne pas dire absurde, si l'on s'en tenait à l'aspect purement technique. Mais aussi bien ceux qui avaient soumis l'idée de cette simulation, ceux qui l'avaient conçue, que ceux qui s'apprêtaient à la conduire étaient conscients qu'elle n'avait aucun intérêt expérimental. C'était seulement une campagne de communication très coûteuse dont on ne pouvait toutefois pas faire l'économie. Son but visait à renforcer la foi de la population mondiale dans le projet Bunker. L'essai se devait donc d'être spectaculaire, visuellement grandiose et enfin susceptible d'être suivi en direct par le monde entier. Depuis l'abandon du projet Vaisseau Luminique, la situation sur Terre était devenue semblable à celle du début de la Grande Crise. Dans le temps, le monde avait orienté ses stratégies de défense contre l'invasion trisolarienne dans 2 directions. La première consistait à engager un projet global de défense du système solaire. La seconde avait vu le lancement du programme Collimateur. Le plan général qui permettrait la survie de l'espèce était aujourd'hui incarné par le projet Bunker, tandis que celui du Champ Noir était un équivalent de l'ancien programme Collimateur. Un pari risqué et plein d'incertitudes. Les 2 projets étaient menés parallèlement, mais le projet Champ Noir se bornait pour l'heure à des recherches théoriques fondamentales. Sa portée était donc limitée. À l'opposé, le projet Bunker avait un impact énorme sur la société dans son ensemble et des efforts colossaux devaient être engagés pour s'assurer du soutien du public. Afin d'observer les effets de protection des planètes géantes au cours de la simulation, il aurait pu suffire de placer des senseurs derrière chacun des astéroïdes ou, au pire, d'y envoyer des animaux. Mais pour que l'expérience ait un retentissement maximal sur la population, les 2 grands organismes avaient décidé de lancer une campagne pour recruter des volontaires humains prêts à se rendre derrière les astéroïdes. C'était AA qui avait suggéré à Cheng Xin de soumettre sa candidature. Elle considérait que l'événement serait une opportunité exceptionnelle de faire une publicité gratuite pour la participation du groupe Halo au chantier du projet Bunker. Toutes deux savaient très bien que la simulation était parfaitement préparée. Elle n'était angoissante qu'en apparence, car elle ne comportait en réalité pas le moindre danger. La capsule spatiale de Chung-Sin stationnait dans l'ombre de la roche figurant Jupiter. On aurait dit une pomme de terre irrégulière. Longue de 110 mètres, elle avait une largeur moyenne de 70 mètres, soit à peu près la taille d'un gratte-ciel terrestre. Les êtres humains placés derrière cet astéroïde se trouvaient être les plus proches de la bombe, située à 50 kilomètres. Il avait fallu 2 mois pour acheminer Jupiter depuis la ceinture d'astéroïdes jusqu'ici. Durant le trajet, un ingénieur qui avait sans doute eu du temps à perdre et qui possédait des dons d'artiste avait peint sur une partie de l'astéroïde des zébrures similaires à celles visibles à la surface de Jupiter, parmi lesquelles la grande tache rouge. Cependant, quand on regardait à présent la roche, elle avait moins l'air d'une planète que d'un monstre spatial avec un œil unique et rougeoyant. Comme lors de son dernier voyage, la capsule spatiale de Chung-Sin avait fait cap vers les rayons étincelants du soleil, mais une fois entrée dans l'ombre de l'astéroïde, tout s'était soudain assombri en raison de l'absence de dispersion de la lumière. Aucun soleil ne paraissait se trouver de l'autre côté de la roche. Chung-Sin se sentit au bord d'un précipice nocturne. Même sans l'énorme rocher pour lui bloquer la vue, elle aurait été dans l'incapacité de voir la bombe simulant le soleil 50 kilomètres plus loin. Mais dans l'autre direction, elle pouvait discerner Saturne, positionné à 100 kilomètres du soleil et à 50 de Jupiter. Sa taille était à peu de choses près la même que celle de la roche derrière laquelle s'abritait Chung-Sin. Illuminée par les rayons solaires, ses contours vagues se révélaient sur le fond de l'espace. Elle pouvait aussi voir Uranus 200 kilomètres plus loin, mais ce n'était qu'un point lumineux qu'elle avait du mal à distinguer des étoiles. Le reste des planètes était invisible. À côté de celle de Chung-Sin, 19 autres capsules spatiales attendaient également dans l'ombre de l'astéroïde représentant Jupiter. Elles jouaient le rôle des 20 cités spatiales qui seraient construites dans le cadre du projet Bunker. Les appareils formaient 3 rangs derrière l'astéroïde. Celui de Chung-Sin était situé dans le premier rang, à une distance de 10 mètres environ de Jupiter. Une 100aine de volontaires avaient pris place à bord de capsules participant à la simulation. AA avait prévu à l'origine d'accompagner Chung-Sin, mais les affaires du groupe l'avaient retenu au siège. Chung-Sin était peut-être bien la seule passagère unique de toutes les capsules situées derrière Jupiter. D'ici, il pouvait voir la planète bleue briller de toute sa clarté, 1 500 000 kilomètres plus loin. À sa surface, plus de 3 milliards de personnes regardaient la retransmission en direct de la simulation. Un compte à rebours s'afficha. Il ne restait plus que 10 minutes avant le début de l'expérience. Les canaux de communication se turent et une voix d'homme retentit brusquement.
Bonjour. Je suis à côté de toi.
Chung-Sin reconnut aussitôt cette voix et ne put réprimer un frisson. Sa capsule était à l'extrémité de la rangée qui en comportait 5. Elle regarda à sa droite et vit une capsule sphérique qui la collait de près, très similaire à celle à bord de laquelle elle était montée lors de son dernier voyage. Sa coque transparente recouvrait la moitié de l'appareil. Elle pouvait y voir 5 individus, parmi lesquels Thomas Wade, qui la saluait de la main derrière son hublot. Si Chung-Sin avait pu le reconnaître dès le premier coup d'œil, c'était parce que, contrairement aux 4 autres personnes ayant pris place à ses côtés, il ne portait pas de combinaison légère de spationaute. Il était vêtu de son éternelle veste en cuir, comme s'il voulait illustrer ainsi son dédain pour l'espace. L'une de ses manches était encore vide. Il ne s'était toujours pas fait poser de prothèse à la main.
Amarrons-nous que je puisse venir te voir,
dit Wade. Et sans même attendre l'accord de Chung-Sin, il amorça lui-même le processus d'amarrage. Sa capsule spatiale enclencha ses propulseurs de positionnement et elle se rapprocha lentement de l'engin de Chung-Sin, ne laissant guère d'autre choix à cette dernière que d'activer les siens. Après une légère vibration, les deux capsules se retrouvèrent connectées l'une à l'autre et les deux écoutilles des vaisseaux s'ouvrirent en glissant sans bruit. Le temps que la pression entre les deux capsules s'équilibre, les oreilles de Chung-Sin bourdonnèrent. Wade la rejoignit en planant. Il n'avait sans doute comme Chung-Sin qu'une expérience limitée en matière de mouvement dans l'espace, mais il semblait né pour rejoindre cet environnement. Même avec une seule main, ses gestes en apesanteur étaient harmonieux et réguliers, comme si son corps était encore soumis à la gravité. Il faisait sombre dans la cabine. Les rayons du soleil reflétés par la Terre se projetaient sur l'astéroïde, mais ils étaient déviés par lui avant d'arriver dans la capsule. Dans cette luminosité trouble, Chung-Sin dévisagea Wade et constata que le temps n'avait pas laissé beaucoup d'empreintes sur son visage. Il n'avait presque pas changé depuis 8 ans, la dernière fois où elle l'avait rencontré en Australie. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Chung-Sin. Elle s'efforçait de garder son sang-froid, chose qu'elle avait toujours eu bien du mal à faire en présence de cet homme. Tout ce que Chung-Sin avait vécu jusqu'à ce jour avait poli son cœur, si bien qu'il était devenu aussi lisse et rond que la grande roche devant eux, mais, à sa surface, Wade demeurait une zone invariablement rêche et pointue. « J'ai été relâché il y a 1 mois. » Wade sortit un cigare à moitié consumé de la poche de sa veste, même s'il ne pouvait naturellement pas l'allumer ici. « Remise de peine. J'avais été condamné à 11 ans pour tentative d'assassinat. Je sais que ce n'est pas juste pour toi. Nous nous conformons tous deux à la loi. Ce n'est pas une question d'injustice. Suivons-nous toutes les lois, même celles qui concernent les vaisseaux luminiques ?» Wade n'avait pas changé. Il tranchait toujours droit dans le sujet comme une lame aiguisée. Il n'aimait pas perdre son temps. Mais Chung-Sin ne lui adressa aucune réponse. « Pourquoi as-tu choisi les vaisseaux luminiques ?» demanda Wade en tournant la tête et en la regardant fixement. « Parce que c'est le seul choix qui soit digne de la grandeur de l'humanité, » répondit finalement Chung-Sin en soutenant courageusement son regard. Wade hocha la tête et ôta son cigare de la bouche. « Excellent. Toi aussi tu es digne. » Chung-Sin posa sur lui un regard interrogateur. « Tu sais ce qui est juste et tu as le courage et le sens du devoir pour l'exécuter. C'est remarquable. »« Mais ?» anticipa Chung-Sin. « Mais tu n'as ni les capacités ni la volonté pour mener à bien cette mission. Toi et moi, nous avons le même idéal. Moi aussi, je souhaite construire des vaisseaux luminiques. Que veux-tu au juste ? Que tu me les donnes. Que je te donne quoi ? Tout. Ta compagnie, ton argent, ton autorité, ta position et, si tu le peux, ta gloire et ta réputation. Je m'en servirai pour fabriquer des vaisseaux luminiques, pour ton idéal, pour la grandeur de l'humanité. » Les propulseurs de positionnement de la capsule spatiale furent à nouveau activés. L'astéroïde ne produisait qu'une gravité infime, mais elle suffisait à attirer lentement les engins dans sa direction. Les propulseurs des appareils les en éloignèrent délicatement pour les ramener vers leur position d'origine. Les flammes bleues qui s'échappaient des propulseurs illuminèrent la surface de la roche, ouvrant soudain son œil cyclopéen. Le cœur de Chung-Sin se contracta sans qu'elle sache si c'était un réflexe provoqué par la vision de l'œil ou par les propos de Wade. Ce dernier dévisagea l'œil. Son regard, toujours cruel et aiguisé, se teinta d'une pointe de sarcasme. Chung-Sin ne parla pas. En cet instant, elle ne savait quoi dire. « Ne fais pas 2 fois la même erreur, » renchérit Wade. Chaque syllabe de cette phrase s'abattit comme un coup de marteau sur le cœur de Chung-Sin. Le moment était arrivé. La bombe explosa. En l'absence de résistance atmosphérique, son énergie se libéra presque entièrement sous forme de rayonnement. La scène était retransmise en direct grâce à un ensemble de caméras placées à 400 km de là. Une boule de feu jaillit près du soleil, dont la taille et la luminosité dépassaient de loin celle du soleil lui-même, et les filtres des caméras assombrirent aussitôt le taux de luminosité. Si un humain avait observé directement le phénomène depuis cette distance, il serait instantanément devenu aveugle. Quand l'éclat de la boule de feu eut atteint son paroxysme, on ne voyait plus dans l'objectif qu'une lumière d'un blanc total. Les flammes paraissaient avoir englouti tout l'univers. Réfugiés dans l'ombre de la grande roche, Chung Sin et Wade ne virent rien de cela. Ils avaient éteint l'écran de retransmission de leur cabine, mais ils constatèrent derrière eux que la luminosité de Saturne s'était soudain intensifiée, telle une supernova. Aussitôt, du magma fondu gicla sur le côté de la roche, faisant face au soleil. La lave frôla les frontières rouges sombres de l'astéroïde, mais après qu'elle se fut envolée sur une certaine distance, l'éclat des reflets de l'explosion nucléaire surpassa celui de la lueur rouge émise par le magma, et les filets de lave se changèrent en feux d'artifice. Depuis la capsule spatiale, c'était comme si on se trouvait au sommet d'une cascade argentée, dégringolante avec une violence torrentueuse vers la Terre. À cet instant, les quatre astéroïdes de petite taille qui tenaient lieu de planètes telluriques avaient déjà été réduits en miettes, tandis que les quatre planètes géantes ressemblaient à des boules de glace chauffées par des chalumeaux, dont la partie faisant face aux radiations fondait à grande vitesse pour devenir un hémisphère à la surface lisse et régulière. Chaque fragment de roche se vit bientôt doté d'une queue de lave argentée de plus en plus longue. Ce ne fut qu'une dizaine de secondes après que Jupiter eut été frappé par les radiations que la matière solaire expulsée de la bombe entra en collision avec la roche, la faisant trembler et l'éloignant lentement du soleil. Les propulseurs des capsules s'enclenchèrent encore, maintenant une distance constante entre les engins et la roche. La boule de feu persista encore 30 secondes avant de s'évanouir. L'espace fut alors comme une grande salle dont on aurait soudain éteint les lumières. Même les rayons du vrai soleil, à une unité astronomique d'ici, parurent plus faibles et plus sombres. Avec la disparition des flammes, la lumière émise par l'hémisphère brûlé de l'énorme roche rougeoyante devint plus vive. Celle-ci apparut d'abord très brillante, comme si elle était en feu, mais le froid glacial de l'espace lui redonna bientôt sa teinte rouge sombre et esquissa à ses extrémités de longues bavures circulaires. Les 50 capsules spatiales cachées derrière les quatre géantes gazeuses étaient indemnes. Les images transmises sur Terre avec un différé de 5 secondes soulevèrent des hurrahs de joie partout dans le monde, et l'espoir en l'avenir explosa avec la même force que la bombe H. L'objectif de la simulation du projet Bunker était atteint. « Ne fais pas deux fois la même erreur », répéta Wade, comme si tout ce qui venait de se passer n'avait été qu'un bruit de fond, n'ayant fait qu'interrompre momentanément leur conversation. Chung Sin observa la capsule spatiale où se trouvait Wade. Les quatre autres hommes en combinaison n'avaient pas cessé de regarder dans sa direction et n'avaient semblé éprouver aucun intérêt pour la scène spectaculaire qui venait de se produire devant eux. Chung Sin savait que plus de 10 millions de candidats s'étaient portés volontaires pour cet essai et que seules les personnalités les plus connues ou les plus influentes avaient été choisies. Or, Wade venait à peine de sortir de prison. Les quatre individus qui se tenaient à ses côtés étaient de toute évidence des fidèles de longue date et la capsule lui appartenait sans doute. 11 ans plus tôt, quand il avait concouru au poste de porte-épée, il comptait de nombreux partisans loyaux et davantage encore de supporters. La rumeur courait même qu'il avait créé une organisation secrète qui existait peut-être encore. Il était à l'image d'un combustible nucléaire. Même enfermé dans un récipient de plomb, on parvenait encore à sentir sa puissance et sa nocivité. « Laisse-moi le temps de réfléchir, » lâcha Chung Sin. « Naturellement, tu as besoin de réfléchir, » dit Wade en hochant la tête. Puis il s'éloigna silencieusement en planant jusqu'à la cabine de sa propre capsule. Les écoutilles se refermèrent et les capsules se séparèrent. Dans la direction de la Terre, Les morceaux de magma refroidi flottaient sur un fond d'étoiles, tels des blocs de poussière chatoyante dans les raies de lumière du soleil. Cheng Xin sentit que quelque chose en elle s'était relâché, et elle aussi avait l'impression d'être devenue un grain de poussière flottant. Pendant le voyage de retour, lorsque la distance entre la capsule et la Terre se fut réduite à 300 000 km, c'est-à-dire quand les communications purent s'effectuer sans aucun décalage, Cheng Xin téléphona à A.A. en lui racontant sa rencontre avec Wade.
« Fais comme il te le demande, donne-lui tout !»
répondit A.A. sans hésiter. « Tu !» Cheng Xin fixait A.A. avec surprise dans l'écran du visiophone. Elle avait cru qu'A.A. serait le plus grand obstacle.
« Il a raison, tu n'en as pas les capacités, cela te détruirait. Mais lui, il peut. Ce bâtard, ce démon, ce criminel, ce parvenu, cette crapule politique, ce truand technophile, il peut. Il a les capacités et la volonté nécessaires. Laisse-le faire. C'est l'enfer qui t'attend. Laisse-le sauter dans ce brasier. »
« Mais, et toi ?» A.A. eut un sourire.
« Je n'imagine pas un instant travailler pour ce monstre. Depuis l'interdiction des recherches sur les vaisseaux luminiques, c'est un projet qui me fait peur. Je trouverai des activités qui me plaisent. J'espère que toi aussi tu pourras. »
Le surlendemain, Cheng Xin rencontra Wade dans le hall transparent du siège du groupe Halo. « Je suis prête à te donner ce que tu demandes, » annonça Cheng Xin. « Tu entreras ensuite en hibernation. » compléta aussitôt Wade, car ta présence risquerait de mettre en péril cette mission. Cheng Xin hocha la tête. Oui, c'est aussi mon intention. Le jour où nous aurons réussi, nous te réveillerons et ce sera ton succès à toi aussi. Si ce jour-là les vaisseaux luminiques sont encore hors la loi, nous en prendrons la totale responsabilité. Si ceux-ci ont en revanche été acceptés, le mérite te reviendra. Ce sera peut-être dans un demi-siècle, voire plus. Nous serons vieux, mais tu seras encore jeune. J'ai une condition. Parle. Si un jour ce projet devait mettre des vies humaines en danger, tu devras me réveiller et ce sera à moi qu'il reviendra de prendre la décision finale. Je pourrai alors révoquer les pouvoirs que je t'ai donnés. Je refuse. Alors n'y pense plus, je ne te donnerai rien. Cheng Xin. Tu sais bien qu'un tel projet nécessite parfois de « oublions et cheminons chacun de notre côté ». Wade fixa Cheng Xin. Quelque chose de rare chez lui se dessinait dans son regard. De l'hésitation. Peut-être même de l'impuissance. Un sentiment aussi étrange dans ses yeux que si de l'eau jaillissait d'une fournaise. « Laisse-moi réfléchir, » fit-il. Avant de se diriger devant un mur transparent pour contempler la forêt urbaine à l'extérieur. Cheng Xin avait déjà vu cette silhouette noire lui faire dos. Une nuit, 3 siècles plus tôt, au siège des Nations Unies, devant l'océan de lumière de New York. Après environ 2 minutes, Wade se retourna. Il resta sur place, se contentant de regarder Cheng Xin depuis le mur translucide devant lequel il se dressait. « Bien, j'accepte. » Cheng Xin se rappelait la phrase qu'il avait prononcée 3 siècles plus tôt. « Nous n'en verrons que le cerveau. » Et ces quelques mots avaient changé le cours de l'histoire. « Je n'ai rien qui puisse te contraindre et je ne peux me fier qu'à ta parole. » Wade esquissa son immuable sourire de glace. « En réalité, tu sais bien que si je ne tiens pas parole, ce sera pour toi une bénédiction. Mais malheureusement, je n'en ferai rien. J'honorerai ma promesse. » Wade s'avança, arrangeant d'une main sa veste en cuir, qui n'en fut que plus froissée, puis il annonça sur un ton solennel « Je jure que si la vie d'un être humain venait à être menacée par le projet de développement des vaisseaux luminiques, nous te réveillerons. » Et ce, quelle que soit la nature de cette menace. Tu auras à ce moment le dernier mot, et tu pourras révoquer mon autorité sur le groupe. » Quand elle eut entendu le récit de cet échange, A.A. confia à Cheng Xin. « Alors, je me ferai hiberner avec toi. Nous devons nous préparer à reprendre à tout moment la main sur le groupe.
Crois-tu qu'il tiendra parole ?
Demanda Changxin. Les yeux d'A.A. se figèrent dans le lointain comme si elle cherchait Wade du regard.
Aussi étrange que ça puisse paraître,
oui. Ce démon honorera sa promesse, mais comme il te l'a dit, ce ne sera pas forcément une bonne chose pour toi. Changxin, tu aurais pu te sauver, mais tu ne l'as pas fait.
10 jours plus tard, Thomas Wade devint le nouveau président du groupe Halo et il prit en main la totalité des opérations de la société. Au même moment, Changxin et A.A. entraient en hibernation. Tandis que leur conscience s'obscurcissait, elles se sentirent envahies de la sensation d'avoir flotté pendant longtemps au gré d'un courant. À bout de force, elles se hissaient maintenant sur la rive et cessaient de dériver pour regarder le fleuve continuer à s'écouler sans elles et sa surface si familière s'éloigner dans le lointain. Et tandis qu'elles s'extirpaient du long fleuve du temps, l'histoire de l'humanité continuait à s'écrire.